L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Nous sommes le mardi 22 décembre et je suis aujourd'hui en compagnie, non pas de Claire qui est en vacances, mais d'Anthony. Bonjour Anthony.
Et oui, bonjour Marie. En effet, petite pensée pour Claire qui profite de ses vacances.
Exactement, elle a bien raison et donc évidemment tu assures bien correctement, j'en suis sûre, son remplacement. Aujourd'hui, on va parler... Mais oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Aujourd'hui, on va parler d'une chorale née en plein confinement. Non, non, ils ne sont pas fous et ils ont bien l'intention de continuer à proposer un spectacle quand les conditions sanitaires se seront bien sûr améliorées. On continue nos interviews spéciales associations cette semaine avec aujourd'hui une interview à propos des centres de ressources pour les bénévoles et puis des effectifs presque doublés pour Réauté Chocolat. La période de Noël est primordiale pour l'entreprise, vous l'entendrez en fin d'émission. Mais tout de suite, donc du coup, on va faire un petit point sur l'actualité avec des changements annoncés pour le dépistage de la Covid à Château-Gontier. Le bus fait escale aujourd'hui jusqu'à 13h30 et de 15h30 à 19h à la halle du Haut-Anjou. Quelques autres changements annoncés aussi dans la semaine. Le dépistage est proposé demain mercredi à Cossé-le-Vivien, salle du FCC, de 9h à 13h30 et à Laval au Square de Boston, ce sera samedi aux mêmes horaires.
Et un chiffre, Marie, pour ce mardi? 30 000.
Et oui, 30 000, c'est le nombre d'heures de bénévolat réalisées par les bénévoles de la protection civile qui s'occupent entre autres des centres de dépistage. C'est 4 fois plus qu'en 2019. Une fierté, mais pas vraiment une satisfaction pour Rémi Besson, le président de la protection civile en Mayenne. Je ne souhaite pas que ce soit comme ça tous les ans, ou en tout cas pas dans ces circonstances, a-t-il précisé. Il faut à tout prix éviter qu'après les fêtes, cela devienne pire, bien sûr.
Céline Broquin, la Combe, nouvelle sous-préfète dédiée à la relance en Mayenne.
Sa mission, dès le 1er janvier, sera d'accompagner les entreprises bénéficiaires du plan de relance gouvernemental. Elles sont 11 en Mayenne. Céline Broquin, la Combe, ne veut pas que ce poste soit vu comme une couche administrative supplémentaire, mais plutôt comme une interlocutrice dédiée aux entreprises. La nouvelle sous-préfète était auparavant chef des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture.
Et en Mayenne, des pompiers généreux avec les Libanais.
Le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne a fait un don de 100 000 euros à l'association Solidarité Pompiers Liban. Après les explosions du port de Beyrouth en août dernier, les pompiers mayennais veulent aider leurs collègues libanais à s'équiper. Ils leur envoient une quinzaine d'échelles à coulisses, du matériel de désincarcération et puis aussi des vestes, des surpantalons et des gants. L'ensemble de cette cargaison sera livré sur place en mai 2021.
Et c'est donc l'heure de voter, mais pour le sportif de l'année.
Et oui, Mayenne évidemment, hein, 6 candidats pour cette édition. Gabriel Bordier de l'US Saint-Berthevin Athlétisme, Clément Bourgeois du club voile Mayenne, Clément Davy, nouveau coureur de l'équipe cycliste FDJ, Romain Salin, le gardien du Stade Rennais Football Club, Sunkamb Basila de Laval Aglo Athlé 53 et Laurie Vézy de Laval Athlétisme 53. Il y a 3 autres catégories, l'espoir de l'année, la personnalité de l'année et l'entraîneur de l'année. Vous pouvez voter sur le site La Mayenne jusqu'au 11 janvier. Et un mot de voile sur le Vendée Globe, Maxime Sorel, lui, est toujours 10e sur son bateau VNB Mayenne, à 739 000 nautiques du leader Yannick Bestaven.
Et sur Laval, ils créent leur chorale pendant le confinement.
Le groupe vocal Toufa pour Fa a été lancé fin octobre par le chef de chœur Michael Cavalier. Très vite rejoint par certains choristes de son ancien groupe vocal, ils sont aujourd'hui une quinzaine à faire partie de l'association. Mais à cause du confinement mis en place fin octobre, ils n'ont jamais pu répéter tous ensemble dans la même salle. Alors forcément, il a fallu s'adapter, comme l'explique Michael Cavalier.
On s'est jamais retrouvé pour de vrai dans le groupe Tout ça pour ça. Des choristes qui s'enregistrent chez eux avec leur téléphone. Il faut savoir que quand on répète, je leur dégrossis tous les pupitres, soprane, alti et homme, et je leur fournis ensuite pour travailler chez eux une bande son avec un piano enregistré et chaque pupitre enregistré. Donc les hommes ont la voix d'homme enregistrée avec les deux pupitres de soprane et alto moins fort derrière. Ils entendent plus fort leur voix d'homme. Et c'est valable ça pour tous les pupitres. Ils répètent chez eux, ils écoutent, et quand ils estiment qu'ils sont prêts, ils ont une source sonore dans une des deux oreilles pour savoir quand chanter et à quel moment chanter et chanter le plus juste possible. Gardent une autre oreille dégagée pour pouvoir chanter juste. et ils se filment en train de chanter devant leur téléphone. Donc c'est hyper difficile comme exercice parce qu'on se sent enchanté, il faut respecter la mesure, il faut respecter la justesse, respecter tout ce qu'on a dit aussi pendant les répétitions. L'objectif de Tout Fa pour Fa, dans la fin de sa saison, c'est de produire un spectacle sur scène, avec de la lumière, une tenue appropriée. Il faut savoir que Tout Fa pour Fa, ce sont des choristes qui sont aussi comédiens et qui interprètent leurs chansons. Moi, je m'efforce de faire dans un spectacle des chansons amusantes, des chansons avec du texte, des chansons avec des messages, parce que je pense que dans un spectacle, le spectateur doit passer par plusieurs émotions. Les incontournables, c'est Brel, Nougaro, Le Forestier, Véronique Sanson, Goldman, Michel Berger. Mais j'aime bien aussi, alors pour le spectateur, mais aussi pour le choriste, faire découvrir des textes. On interprète des chansons des Ogres de Barbac, de Juliette, de Jeanne Chéral. C'est le propre aussi de ce groupe vocal. Je dis pas chorale, parce que chorale, l'image de la chorale qu'on peut avoir, c'est des gens placés en demi-cercle, en pupitre. À Tout Fa pour Fa, les gens sont mélangés, les hommes sont mélangés avec les femmes. C'est-à-dire qu'une soprane peut se retrouver à côté d'un ténor et une alti à côté d'un basse. Il n'y a pas de partition, il y a des déplacements, il n'y a rien de statique. Les gens peuvent chanter debout, peuvent chanter assis. Il se passe plein de choses visuellement.
Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent.
C'était évidemment « Tous les cris, les SOS » de Daniel Balavoine, joliment interprété par le groupe vocal Tout Fa pour Fa. Et même s'ils savent qu'un spectacle cette année paraît compromis, ils ne lâchent pas l'affaire. Une nouvelle vidéo a été publiée samedi sur leur compte YouTube, un medley intitulé « Partir avec des petites surprises ». Je vous laisse découvrir ça. Notre semaine spéciale association se poursuit avec aujourd'hui un zoom sur les centres de ressources pour les bénévoles. On en parle d'ici 3 minutes, juste le temps d'écouter Bahamas avec Up with the Jones.
I started out, I had no plan. I took a job and soon was working for the man. And now it seems, through mud and dreams, and all I've done is learn to live beyond my means. Yes, we had the house, and we had the car, and paid for it all on some credit card. Now that ain't right. Second home, your student loans, and every year I got myself a brand new phone. Can't do without, don't have the nerve. I tell myself that these are things that I deserve. Yes, I can't make do with just half my check. I need all those things, and so I live in debt. That ain't right. Yes, I can't keep up with the Joneses. I can't slow down, I've lost control. I double down and tell myself I'm on a roll. It's not my fault, it's not like me. I never saw myself as someone who ain't free. Now I'm wondering, has it gone too far? Should I pick up the check at this hotel bar? Now that ain't right. No, 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 no. Everything that I thought I knew, everything I was told was true. I was living a lie, and I never asked why. Now I don't know what to do. I guess
guess I can't keep up, I guess I can't keep up with the Joneses. I was living like the money was king. I let it have a power on me. Now I recognize the funniest thing is I'm broken, now I'm finally free. We all know life don't go as planned, so now I'm buying all my records secondhand. Ooh. It's brought me peace. Ooh. I've come to see. Ooh. That all my greatest joys in life are always free. I still have my house, but I sold my car, and it felt so damn good to cut up those credit cards. Yeah, that felt right.
C'était donc Up with the Jones de Bahamas sur l'autre radio. Vous écoutez l'agité du local comme tous les midis du lundi au vendredi. Mais aujourd'hui, nous sommes bien mardi 22 décembre et Anthony est avec nous toute cette semaine pour une série d'interviews complètes autour des associations. Après un point sur les institutions hier, en l'occurrence la préfecture de la Mayenne et la ville de Laval, la série se poursuit aujourd'hui. Bonjour Anthony.
Et oui, bonjour Marie, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, deuxième temps sur les associations, quelle structure, quel réseau, quel dispositif. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un dispositif en particulier qui s'appelle le CRIB, c'est-à-dire le Centre de ressources et d'information pour les bénévoles. Et pour ça, nous recevons le CAC, le GDOS, et oui, encore des acronymes, mais on va essayer de les expliquer. Avec donc aujourd'hui avec nous, pour le Centre d'études et d'action sociale de la Mayenne, Nathalie Oudéyer et Virginie Amirbakas, salariées au CAC. Bonjour.
Bonjour.
Et pour le Centre départemental olympique et sportif, Monsieur Joël Boigontier, membre du bureau, et Marie Bréchet, salariée auprès du GDOS. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, rapidement pour commencer, commençons par le GDOS. Monsieur Boigontier, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que le GDOS ?
Le GDOS, en deux mots, donc Comité départemental olympique et sportif, donc vocation sportive. En fait, ça représente, c'est un lieu, c'est une interface entre le mouvement sportif dans son ensemble et les pouvoirs publics, que ce soit les services de l'État ou le conseil départemental. Donc, en résumé, en extrême résumé, c'est un peu le rôle du comité départemental olympique et sportif. Sur le plan de l'activité, eh bien, outre la représentation du monde sportif, on a aussi le rôle d'accompagnement et d'assistance, et on est en plein dans notre sujet, puisque c'est justement le CRIB, donc qui est inclus dans le GDOS, qui a cette fonction. Autre point important concernant le GDOS, c'est tout ce qui concerne le sport santé, qui est un sujet d'actualité, et donc la Mayenne est un peu en pointe sur le sport santé. Voilà donc pour une présentation très générale du GDOS.
Oui, présentation très générale, parce qu'il y a beaucoup d'autres actions, je sais, qui sont portées par cette association. Même exercice pour vous, Nathalie Oudéyer. Le CEAS, qu'est-ce que c'est ?
Alors, CEAS, Centre d'études et d'action sociale de la Mayenne, donc, est une association qui a maintenant plus de 30 ans. Oui, même, qui a dépassé les 40, on va dire.
Joyeux anniversaire.
Merci. Et qui est un centre de ressources pour tous les Mayennais, en général, et notamment pour les associations, déjà par le CRIB, mais aussi par d'autres dispositifs tels que Impact Emploi. Donc là, on est là pour répondre à toutes les demandes, quelles qu'elles soient, Quand ça concerne les associations spécifiquement, on peut diriger les associations quand nous-mêmes nous n'avons pas la réponse vers les instances qui peuvent répondre aux demandes.
Merci à vous pour la présentation de vos structures respectives. Intéressons-nous donc maintenant un petit peu plus au dispositif qui s'appelle donc le CRIB. Marie, peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est ce dispositif, quelle est son action, son rôle, ses missions?
Alors un CRIB, comme son nom l'indique, Centre de ressources et d'information des bénévoles, son rôle c'est d'accompagner le bénévole et plus précisément de simplifier l'engagement bénévole autour de 5 verbes que l'on trouve habituellement dans les actions d'un CRIB. C'est d'abord informer, puis orienter, conseiller, former et soutenir. Donc un CRIB, c'est surtout un lieu ressource qui s'appuie sur les compétences internes de la structure, les compétences des bénévoles expérimentés et des salariés, et puis un réseau d'acteurs également qui viennent conforter les missions du CRIB, puisque on s'appuie sur les compétences également des différentes structures en Mayenne, CEAS, DOS, l'État et tout un tas d'autres structures. Et le CRIB s'adresse à tous les bénévoles d'associations, notamment ceux qui prennent des responsabilités, qui s'engagent dans l'association, qu'ils soient, je dirais, débutants ou plus expérimentés, puisque la vie associative est en constante évolution. Donc, même si on est un plus ancien bénévole, eh bien, il est toujours nécessaire de se mettre au goût du jour et en parfaite connaissance de l'actualité associative.
Et Nathalie, pour le CEAS, est-ce qu'il y a quelque chose à compléter, quelque chose à rajouter qui n'aurait pas été dit?
Ah non, on est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marie sur les contenus de nos missions, puisque on travaille très souvent ensemble, donc on échange. C'est exactement ce que nous sommes arrivés à faire au quotidien.
D'accord. Donc, si j'ai bien saisi, les informations que vous donnez par le biais de ce CRIB, elles sont plutôt à l'attention des bénévoles, disons-nous, dirigeants, ou est-ce qu'elles s'adressent également à un bénévole qui souhaiterait tout simplement donner du temps et qui cherche, entre guillemets, un contact pour pouvoir s'engager?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est plus dirigé vers les bénévoles qui s'engagent, qui prennent des responsabilités. Parce que le CRIB a pour vocation de sécuriser le fonctionnement de l'association, d'abord la structure, pour aborder tout ce qui concerne les règles liées à l'administration, à la gestion de l'association. Le deuxième temps, c'est sécuriser le projet, donc toutes les activités de l'association, et ça prend encore plus de sens dans le sport, puisque on est soumis dans l'organisation des activités sportives au code du sport. Quand une association emploie des salariés, il y a le respect du droit du travail et des conventions collectives. Dans notre activité également, il y a l'accueil des mineurs. Donc, c'est toute une réglementation qu'il faut respecter. Et puis, le troisième temps, c'est la sécurisation de la fonction bénévole, donc des acteurs, pour leur permettre de décider de façon éclairée et adaptée, en faisant le lien entre le projet et les attentes des adhérents. Et donc, autour de cela, on développe, CEAS et GDOS, des actions concrètes pour accompagner les bénévoles. Donc, même si, pour ma part, ça m'arrive d'avoir des bénévoles qui veulent s'engager, donner de leur temps, ce n'est pas forcément la vocation du CRIB. Mais comme le disait tout à l'heure Nathalie, on oriente, on ne laisse jamais un bénévole sans réponse. Et c'est toute la force du réseau dont je parlais tout à l'heure.
On peut peut-être te citer un exemple. Vous savez qu'en ce moment, les associations en difficulté, il y a pas mal d'associations en difficulté. L'État aide sous forme d'un fonds de solidarité. Le problème pour les dirigeants associatifs est de savoir s'ils sont éligibles ou pas au fonds de solidarité. Exemple très concret. On a organisé la semaine passée au GDOS un séminaire, notre séminaire annuel en présence des services de l'État et du président du département. Les services de l'État nous ont dit, Serge Milon nous a dit, mais les assos sportives, puisque là on parlait du sport, ont vocation à demander le fonds de solidarité. On a donc, dans un premier temps, au niveau de l'équipe, regardé un peu de quoi il retournait. Ensuite, les élus se sont connectés entre eux pour savoir qui avait candidaté, par quel biais fallait passer, etc., etc. Et dans notre newsletter de la semaine, on a fait savoir à toutes les assos sportives pour le coup, que si elles avaient besoin de candidater au fonds de solidarité, elles pouvaient nous contacter et qu'on pouvait tout à fait leur donner de manière très pratique et très concrète la manière dont ils pouvaient aborder ce fonds de solidarité et faire cette déclaration qui est, allez, un tout petit peu compliquée quand même, mais que bon, on sait parfaitement, on maîtrise parfaitement, nous, maintenant. Donc là, on est vraiment dans le rôle du CRIB d'aider les dirigeants dans leur démarche en général et vis-à-vis des administrations en particulier.
Et par rapport à un bénévole qui veut s'engager, une petite anecdote, il m'est arrivé d'avoir des appels de gens qui veulent s'engager pour organiser, pour participer à l'organisation de Paris 2024, des JO, et d'être bénévole. Et donc, moi, je n'ai pas la réponse au CRIB, et ce n'est pas notre vocation, mais j'oriente vers l'organisation, le COJOP, sans oublier les Jeux Paralympiques, mais j'oriente vers le COJOP Paris 2024.
Et oui, parce que les JO se préparent, en effet, dès maintenant. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être une première idée sur des questions un petit peu récurrentes qui peuvent être posées et éventuellement, est-ce qu'il y a un réseau spécifique ou vers qui est-ce que vous pouvez rediriger ensuite ?
Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu des demandes qui nous sont faites. Donc nous, on reçoit plutôt des appels concernant les statuts, qui sont très importants dans la vie associative, puisque c'est un petit peu la marge de manœuvre, on va dire, de l'association. Et on est souvent interpellé par des personnes qui s'interrogent sur les statuts, qui sont quelquefois un petit peu anciens, et qu'ils ont envie de réactualiser. Donc là, on leur apporte une aide sur la réécriture des statuts. Ça va être également des personnes qui veulent créer une association mais qui ne savent pas par quel bout commencer. Donc là, on va plutôt nous les aider sur l'écriture des statuts en fonction du projet qu'ils veulent porter. Et puis on va également les aider dans les démarches à entreprendre pour créer cette association et pour la rendre visible de tout le monde, c'est-à-dire les démarches auprès des préfectures, quelquefois auprès de l'URSSAF quand il y a des salariés. Donc là, on va plutôt être dans cette logique-là. Par rapport au réseau qui nous entoure, il y a en Mayenne les services de l'État qui, à l'intérieur de chaque structure, ont ce qu'on appelle des référents associatifs. Donc on a la liste de tous ces référents associatifs, je pense notamment aux services fiscaux, et on est en mesure de pouvoir donner ces coordonnées aux associations qui en font la demande, et afin de pouvoir répondre au mieux à leurs attentes.
Donc que ce soit de la création, de l'écriture des statuts, de la communication, de l'ensemble des déclarations, jusqu'à des questions peut-être un peu plus pointues sur des notions salariales éventuellement, ou des choses comme ça. Donc là, c'est bien le rôle du centre de ressources et d'information pour les bénévoles.
Et justement, est-ce que par rapport à telle ou telle question, je dois privilégier, entre guillemets, de me diriger vers soit le CEAS, soit le GDOS ? Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier que vous abordez plus ?
Je crois que ce qui est important, c'est la notion de réseau. GDOS et CEAS font partie d'un même réseau. Alors, juste un exemple, une formation récente a été organisée par le CEAS. On avait fait de la pub pour la formation dans notre newsletter. À la formation du CEAS, il y avait 50% d'assos sportives et 50% d'assos non sportives. Ce qui veut dire que quand on travaille ensemble et en réseau, on a de meilleurs résultats que quand on travaille chacun dans son coin. Donc la notion de CRIB et le fait qu'il y ait deux structures mayennaises ne constitue absolument pas un problème, je dirais même au contraire. Nous, on a au DOS une spécificité un petit peu plus sport, mais grosso modo, on travaille en bonne intelligence et je pense qu'effectivement, c'est la notion de CRIB en général qu'il faut retenir.
Et pour ma part, je voudrais bien rajouter que le GDOS propose également l'intermédiation du service civique pour les associations sportives, c'est-à-dire, et c'est d'autant plus important que c'est un accent sur lequel agit l'État dans le cadre du plan de relance des associations, dans le cadre de la crise sanitaire. Donc le GDOS peut porter l'agrément pour les associations sportives, accueillir le volontaire et le mettre à disposition des associations. Donc, si des associations ont envie de se lancer sans avoir la charge de la partie administrative, eh bien, le GDOS est disponible.
Et pour le CA, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, sauf qu'on reste à disposition de toute association, quelle qu'elle soit. Il nous arrive d'avoir des appels d'associations qui ont une activité sportive. Donc, dans ce cas-là, on n'hésite surtout pas à donner les coordonnées du GDOS. Parce qu'on sait qu'on n'a pas les compétences et qu'au GDOS, toutes les compétences sont réunies pour répondre aux questions. Donc, c'est vraiment, comme disait M. Boguentier, un partenariat sur le département.
Et donc, plutôt une notion de relais ou de complémentarité entre les deux structures. Alors, justement, si je veux vous contacter, comment est-ce que je fais ?
Alors, malheureusement, en ce moment, on privilégie pas trop les numéros de téléphone, puisque nous ne sommes pas forcément en exercice à notre siège social. Donc, je donnerai plutôt une adresse mail pour les associations sportives. C'est mayenne@franceolympique.com. C'est là la porte d'entrée. C'est ce qui permet de toquer à la porte d'entrée du CRIB du GDOS.
Très bien. Et pour ce qui est du CEAS ?
Alors, pour ce qui est du CEAS, nous, on a le numéro de téléphone donc qui est le 02 43 66 94 34. Et on a également notre adresse électronique, comme pour le GDOS, qui est le CEAS53@orange.fr.
Mais je dois préciser qu'on a hâte de retrouver les bénévoles à notre siège, en rendez-vous et de revoir leur visage.
Je crois en effet qu'on a tous hâte de retrouver un peu de lien social et de retrouver nos bénévoles. Est-ce que du coup, vous avez une dernière chose, une dernière information peut-être à apporter ?
Est-ce qu'on a le temps de dire un tout petit mot du DLA ?
Oh oui, pas de souci.
Le DLA pour les assos, je crois que c'est un dispositif qui n'est pas suffisamment connu. Ça permet de faire une sorte d'audit, en quelque sorte, d'une asso, de faire un travail de fond et de bien préparer. Nous, on l'a mis en œuvre, moi je l'ai mis en œuvre pour une association. Ça nous a permis de dessiner un plan de développement à 4 ans, qui est un outil dont on se sert de manière régulière maintenant quand on a à discuter avec les services publics, avec les pouvoirs publics, pardon, de tout ce qui est subvention, etc., etc. Bon. Et donc, ce travail de fond, il est financé par des fonds d'État. Ça permet à un intervenant extérieur, à un consultant extérieur, d'aider à faire ce diagnostic. Et franchement, pour l'avoir expérimenté, moi, je le recommande très, très chaudement.
Magnifique transition, merci beaucoup, puisque justement, demain, nous recevons Sophie Maurice de France Active qui nous expliquera un petit peu plus en détail ce dispositif local d'accompagnement. Merci beaucoup à vous pour votre participation et je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci à vous.
Et puis du coup, on retrouve également demain Thierry Derenne du Crédit Mutuel qui accompagnera Sophie Maurice donc de France Active.
Merci beaucoup Anthony en tout cas pour cette interview de ce mardi qu'on va poursuivre, vous l'avez compris, tout au long de cette semaine. On revient tout à l'heure avec les chroniques cinéma et des objets pour un monde, mais tout de suite on écoute Charlie X, The Smoke.
I'm kinda digging your groove,
baby, come here and dance with me.
I got the smoke if you got a lighter.
I hope your plans are including me.
Cause I got the crib if you got the girls. And I bring the noise and I bring the coke. Yeah, I bring the smoke. Yeah, I bring the smoke. Yeah, I bring the smoke.
I bring a little bit, red rum with me. And all the girls at the floor is hiding now. Their boyfriends is out trying to get me. But we're dizzy, there's even water with the show out of Paris.
And now the French girls love my voice. And I love them all, but only kiss the few.
And only on the cheek, cause that's the shit that they do hit. Light another bleezy, brother trying to breathe new air. Chemtrails got us bugging one another, but who cares? I'm on another level, I'm just trying to get you here. Like a black chick wants new hair. Yeah, Scooby Dooby and Shaggy high, but we're never scared. I'm sick of talking, baby, come here. Baby, come here. Cause
I'm kinda digging your groove,
baby, come here and dance with me.
I got the smoke if you got a lighter.
I hope your plans are including me.
Cause I got the crib if you got the girls. And I
I got the whole crowd jumping up and down with me. Girl, you such a vibrant thing. Sick of looking at your man, huh? You can barely stand. I'm got the whole place watching you sing. Look at you cooking, looking right at me, I'm looking back. We don't have to fuck right away, we can just smoke a fatty. I'm in the mood, if you're in the mood. I hope that you don't think I'm being rude, but baby, come here.
I'm kinda digging your groove, and
baby, come here and dance with me.
I got the smoke and you got a lighter.
I hope your plans are including me.
Cause I got the crib and you got the girls, and I bring the noise and I bring the coke, yeah, I bring the smoke.
C'était Charlie X, The Smoke, sur l'autre radio. Vous écoutez bien l'agité du local. Dernière chronique cinéma de 2020, proposée par l'association Atmosphère 53, qui promeut le 7e art et la diffusion de films art et essai dans le département. À défaut de pouvoir retourner dès à présent dans les salles obscures, voici quelques conseils de films à regarder depuis chez vous, une prescription donnée par Clara.
On vous présente aujourd'hui la critique du film Ridicule de Patrice Lecomte, critique de Fanel George, chargé de coordination et d'administration à Atmosphère 53. Dans ce monde, c'est-à-dire la cour, un vice n'est rien, mais un ridicule tue. Voilà une parfaite illustration de ce microcosme dans lequel évolue tant bien que mal notre héros Grégoire, contraint de se plier au jeu de la vanité et de la cruauté pour atteindre ses objectifs humanitaires. Le film est une ode à la beauté de la langue française, à l'art du langage et du bon mot, tout en illustrant à quel point son utilisation peut être vaine et sans substance, dès lors qu'elle ne sert plus que le paraître et la méchanceté. Les scènes de joute verbale sont un pur moment de plaisir. On est à la fois très amusé et très affligé par cette comédie humaine. La mise en scène de Patrice Lecomte sert magnifiquement les dialogues du scénariste Rémy Waterhouse. Malgré les nombreux échanges de bons mots, on est loin d'un rythme contemplatif qu'on peut parfois rencontrer dans d'autres films en costume. Le film est extrêmement dynamique et les scènes s'enchaînent vite, tenant le spectateur en haleine quant à l'issue de l'intrigue. L'œuvre est ici centrée sur ses personnages très travaillés et portés par un casting exceptionnel. Madame de Blayac, Fanny Ardant, et l'abbé Villecourt, Bernard Giraudot, formidable représentant de la cour et de ses mœurs-villes. Monsieur de Bellegarde, Jean Rochefort, amoureux des beaux langages, mais désabusé par ce qu'est devenu Versailles. Mathilde de Bellegarde, Judith Godrèche, volontairement à l'écart de la cour qu'elle juge gangrénée. Et enfin, le personnage principal, Grégoire Pensée-Ludon, Charles Berlin, nouveau venu à la cour, qui tente par les mêmes armes de mener à bien des ambitions plus nobles. Une subtile opposition s'établit également entre la fin d'une époque et celle à venir. Nous sommes en 1788. Les courtisans de Versailles sont les produits d'un monde refermé sur lui-même, insouciant et inconscient des problèmes du reste du pays. D'ailleurs, il sera dit aux héros de la cour, les sujets sérieux ennuient. Grégoire et Mathilde représentent une jeune noblesse, déjà imprégnée des idées des Lumières. Lui, ingénieur au service des paysans, elle, passionnée par la science et lucide sur l'état de la cour. Si le sujet du film est absolument pas la révolution, il dépeint bien un Versailles sans valeur et prêt à tomber. Patrice Lecomte se révèle au grand public par sa collaboration avec l'équipe du Splendide qui donnera le film Les Bronzés, véritable triomphe public. Lecomte sera par la suite connu pour varier les genres cinématographiques. Ridicule est son œuvre la plus accablée par la critique, multiprimée en France et à l'international. Le film offre également un de ses plus beaux rôles à Fanny Ardant, toute de grâce et de perfidie, et dont le jeu cruel révèle in fine une héroïne tragique. Cette performance lui vaudra le prix Lumière de la presse étrangère en 1997. On espère retrouver Fanny Ardant à l'écran dès la réouverture des cinémas, dans le rôle principal du film de Mai Wen, ADN. Ce film est disponible sur Arte pour 3,99€. On continue avec la critique de Law and Order de Frédéric Wiseman, présenté par Timothée Perrier, étudiant et bénévole d'Atmosphère 53. À la sortie de Law & Order, Frédéric Wiseman n'est encore connu que pour son documentaire Tutti Code for Lies sur les pénitenciers psychiatriques de Bridgewater. C'est le premier film d'une longue série sur l'observation des institutions américaines, universités, hôpital, tribunal, centre d'aide sociale. Il se concentre toujours sur un établissement en particulier et se défend de ne jamais adopter une posture sociologique. Il souhaite s'éloigner d'un quelconque catégorisation et tend plutôt à vouloir rendre de la complexité et des nuances de chacune des situations. Dans un entretien au sujet de Law & Order, le réalisateur affirme d'ailleurs que toutes les idées qu'il pouvait avoir sur les policiers ont été balayées d'un revers de main en moins de 15 minutes. Il a été marqué par le fait que ceux-ci soient les premiers témoins des aspects les plus vilains de l'être humain et en soient en contact quotidiennement. Le film n'est cependant pas une apologie, ni même une critique. Il expose sur la pellicule les scènes quasi théâtrales où chaque individu se joue du rôle social dont il est investi au moment précis, respectant les limites et les outrepassants. De fait, chaque interpellation remet en jeu la notion de justice et d'injustice, d'innocence et de culpabilité, ou encore de violence et de compassion. Il n'échappe d'ailleurs pas au suspect la violente confrontation entre la communauté noire et les policiers blancs, qui, sans tomber dans une lecture qui pourrait s'avérer anachronique, évoque les récents événements des Black Lives Matter. Le film est donc l'occasion pour chacun de questionner ses positions et nuancer ses opinions. Enfin, le réalisateur s'efface derrière un dispositif de caméra légère, caractéristique du mouvement du cinéma direct auquel on l'associe. On laisse la parole au protagoniste de son film. Sans aucun commentaire supplémentaire, si ce n'est le choix et le montage des séquences, il laisse le spectateur interpréter la situation par lui-même. Pour poursuivre la réflexion après le confinement, à l'heure du projet de loi Sécurité Globale, le film engagé de David Dufresne, Un pays que se tient siège, paraît intéressant pour prendre conscience de l'effritement de la relation de confiance censée unir l'institution policière et ses citoyens. Pour les spectateurs endurants, vous pourrez aussi découvrir le dernier documentaire, City Hall, de Frédéric Wiseman, plus que salué par la critique, sur la mairie de Boston. Law & Order est disponible sur Universiné pour 2,99€.
Une chronique à réécouter en podcast sur l'autreradio.fr. Et vous la sentez cette bonne odeur de chocolat? Et oui, toute cette semaine, nous découvrons les coulisses du chocolatier et biscuitier Réauté installé à Château-Gontier. Et on va s'intéresser aujourd'hui à cette période si particulière pour eux, donc de Noël, et comment ça se traduit dans l'organisation qui emploie habituellement 300 salariés. Réponse avec Violette Huolmé, qui s'occupe de l'espace visite et des formations pour les responsables de magasins.
On peut évoluer au moment de Noël, arriver à 400, 500, voire 600 employés. Donc on fait appel à des intérimaires, à des contrats à durée déterminée pour que cette période se passe le mieux possible. On se prépare déjà, comment dire, il nous faut en magasin, il nous faut du personnel en plus. Il faut prévoir les chocolats en quantité suffisante. On travaille également avec les comités d'entreprise, des écoles. On essaye, donc vous avez beaucoup d'écoles qui veulent partir en voyage. Et là, on propose de les aider. C'est-à-dire ils revendent nos produits et en fonction de leur vente, ils perçoivent, comment dire, un bénéfice, financer leur voyage ou autre. Effectivement, oui, il faut prévoir de la main-d'œuvre, comment dire, en production, en logistique, au niveau des transports. Et c'est une période qui est très, pour moi qui le vis depuis des années et des années, j'adore. On ne voit pas le jour. Mais quand on voit les clients qui repartent ravis avec leurs colis, qui vont fêter Noël en famille, c'est la meilleure des récompenses. Avec une équipe, généralement, un esprit d'équipe qui est très agréable. On est tous dedans et on travaille. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7, mais on fait des roulements et on s'aide les uns les autres. Exactement, parce que toute l'année, ils travaillent en 2 journées. Et là, pour les fêtes de fin d'année, ils travaillent en 2-8. Justement pour produire, pour que le consommateur puisse déguster leur chocolat préféré. Chaque jour, donc là on était, comment dire, sur journée, généralement on est environ sur 350 000 bonbons de chocolat. Arrivé, comment dire, à Noël, on arrive à 700 000 bonbons de chocolat, environ. Donc ça fait environ 60 millions de chocolats par an qui sont créés chez Réauté Chocolat pour satisfaire tous nos clients. Chaque année, on augmente la cadence de la production pour pouvoir avoir des magasins chargés en chocolat. Vous avez 2 grosses périodes, donc Noël, pour nous la plus grosse période de l'année, et la deuxième, Pâques, qui est quand même la deuxième grosse période pour nous. Donc on est plus chocolatier, mais pendant toute la période, comment dire, estivale, on innove dans nos biscuits. Surtout cette année, on a innové on est parti sur des biscuits salés pour l'apéro, parce qu'on sait que tout le monde à me prendre l'apéro. Et avec des fameux biscuits, saveur tomate origan. Là, vous avez vu la fabrication, avec ail persil. Donc on le ressent bien. Tout à l'heure, j'étais en production et on ressentait bien l'odeur de l'ail qui était bien enivrant. Et après, on le propose avec différents produits de la maison, avec des tapenades, des rillettes et autres, que vous pouvez déguster à la maison sans problème.
Rassurez-vous, pas de traces de tapenade dans vos chocolats puisque les productions sont prévues le vendredi, le temps que les effluves s'en aillent pour le lundi. Demain, on s'intéresse au processus même de fabrication des chocolats. Et puis, c'est l'heure de notre nouvelle chronique quotidienne des objets pour un monde. Deuxième chronique, c'est parti. Soizic, bonjour. On va parler d'un nouvel objet aujourd'hui dans le cadre de cette chronique des objets pour un monde, le Bouddha.
Et oui Marie, on va parler du Bouddha superstar. Nous allons regarder ensemble comment les statuettes du Bouddha sont devenues emblématiques de la mondialisation. 6e siècle avant Jésus-Christ, le bouddhisme naît en Asie et se décline immédiatement en statues miniatures comme au Japon ou au Népal, ou au contraire en statues gigantesques avec les Bouddhas couchés de Thaïlande ou les Bouddhas géants d'Afghanistan. 3e siècle avant Jésus-Christ, les statues du Bouddha se déplacent au même rythme que l'expansion du bouddhisme en Asie, notamment le long des routes de la soie, s'implantant ainsi dans plusieurs civilisations. 15e siècle de notre ère, les statues du Bouddha sont à la fois des objets de culte et de décoration, échangeables contre valeur en Asie. L'engouement pour le Bouddha reste marginal en Europe jusqu'à cette époque. 17e siècle, les arts bouddhiques, comme les chinoiseries et les japonaiseries d'ailleurs, alimentent les jardins de riches particuliers, les cabinets de curiosité et les musées de toute l'Europe. Ça se mondialise. Parallèlement, les idées bouddhistes suivent également les mêmes canaux de transmission. 20e siècle, aujourd'hui, la statuette du Bouddha est produite en masse et inonde les marchés, de l'échoppe asiatique à l'enseigne de décoration bon marché jusqu'au très chic Bouddha Bar, surfant ainsi sur la mort du chic et du zen. En même temps, les techniques spirituelles telles que la méditation se sont aussi démocratisées. Mais plus étonnant, Marie, si d'un côté la statuette de Bouddha est l'emblème de la mondialisation, elle est également au cœur de la résistance à cette même mondialisation. En effet, l'organisation Knowing Buddha en Thaïlande, a lancé une campagne de boycott des images du Bouddha intitulée « Bouddha is not for decoration ». L'idée est que l'achat et l'usage décoratif du Bouddha seraient de nature à dégrader le message spirituel du bouddhisme. Alors, la statuette du Bouddha, on le voit, est donc par excellence un objet mondialisé. Elle traduit à elle seule toute la complexité de la circulation mondiale des biens et des idées. Désacralisée en ornant nos salons et nos jardins, elle a également permis de diffuser dans le monde entier un patrimoine culturel et spirituel, a priori bien éloigné de nos valeurs, et qui fait ainsi fi de ce présupposé qui voudrait que mondialisation rime exclusivement avec occidentalisation.
Merci beaucoup Soizic, on vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle chronique sur un format un peu plus long puisque cette fois-ci ce sera un autre écho de l'écho. C'est la fin de notre émission L'AJT du local à suivre sur cette antenne à 20h The Voice of Cassandre et à 21h Frères de Chaussures, vos rendez-vous habituels du mardi. Et nous bien sûr on se retrouve demain à 12h15, d'ici là portez-vous bien, bon après-midi et bonne fin de journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.